Chapitre 34. Richard tira sur les rênes de sa monture qui s'arrêta en douceur. Étrangement docile, le Hongre se pliait sans difficulté aux ordres de son cavalier, mais là, il semblait nerveux, hennissant sourdement et piaffant. Les autres chevaux semblaient tout aussi mal à l'aise. « Je sens la même chose que toi, » souffla Richard au Hongre tout en lui flattant l'encolure. « Et je n'aime pas ça non plus. » Autour du sourcier, tout le monde s'était immobilisé, les trois mordecites s'arrangeant pour se placer le plus près possible de Callan et de lui. Dans cette configuration, elles étaient d'une redoutable efficacité, Richard le savait d'expérience. De plus, les laisser se positionner comme elles le voulaient lui épargnait de longues et stériles polémiques. Les soldats formaient le cercle de défense extérieure. En cas d'attaque, ils entendaient être les premiers à encaisser le choc. Du coup, les femmes en rouge et les hommes de Pfister étaient tous très contents de leur sort, ce qui n'arrivait pas tous les jours. Avant qu'un cheval pris de panique finisse par désarçonner son cavalier, Richard fit signe à tous ses compagnons de mettre pied à terre. « Qu'en penses-tu ? » demanda Nietzsche quand elle eut rejoint Richard. Le sourcier sonda la forêt obscure. « Il y a au moins un cadavre devant nous, c'est sûr. Mais est-ce une carcasse d'animal ou une dépouille humaine ?»« Et qui est le tueur ?»« Oui, ça aussi. » En tout cas, la puanteur était atroce. « Plusieurs cadavres d'animaux ?» Richard aurait aimé le croire, mais quelque chose lui criait que ce n'était pas ça. Pfister approcha, tenant sa monture par la bride.
« Nous sommes près du village ?»
Richard acquiesça. Il était en terrain familier désormais. Au-delà de la forêt, après une large bande de terre dégagée, se dressait la falaise où se nichait Stroiza, un village de grottes tout en hauteur. « Je n'entends rien, » souffla Richard à Nietzsche. « Tu sens quelque chose ? En principe, tu devrais capter la présence des villageois, pas vrai ? Et du bétail également.
« S'il y avait des gens ou des animaux encore vivants, je les sentirais, oui. »
La magicienne fit un grand geste circulaire.
« Autour de nous, il y a des oiseaux, un écureuil dans cet arbre-là, là-bas, et des mulots qui se cachent sous les feuilles mortes. Même chose dans les champs au-delà de la forêt. Mais ensuite, plus rien. »
Richard ne fut pas étonné, car ça confirmait son intuition. La note métallique unique retentit dans l'air, annonçant qu'il venait de dégainer son épée.
« Bon. » « Allons jeter un coup d'œil. Les chevaux détestent l'odeur de la mort. Nous allons les laisser là. Attachez-les, mais avec des nœuds qu'ils pourront défaire en tirant dessus si nous ne revenons pas. »
Quatre soldats se chargèrent des montures, l'un d'eux venant prendre les rênes de Richard et de ses cinq compagnes. Les autres hommes tirèrent au clair leur épée.
« Prends soin d'elle, »
dit Callan au soldat qui allait s'occuper de sa jument.
« Elle a été très gentille avec moi. »
L'homme sourit et s'éloigna avec les six chevaux. La colère de l'épée de vérité s'était déjà déversée en Richard, et la puanteur de la mort la rendait encore plus impérieuse. Sa propre rage vint se mêler à celle de l'arme, le préparant au combat. Car depuis qu'il serrait la poignée de l'épée, il n'avait plus le moindre doute sur l'existence d'une menace, et la magie de la lame brûlait d'envie d'affronter ce danger très particulier. Même s'il ne savait pas vraiment le contrôler, le don de Richard, toujours présent en lui, répondait immanquablement à sa fureur. Sauf quand il était absent, comme actuellement. À ces moments-là, l'épée de vérité remplissait ce vide. Le pouvoir de l'arme se substituant au sien, le sourcier se sentait de nouveau vivant et entier. Avec Callan, il échangea un regard, comme chaque fois qu'il se trouvait face à une menace inconnue. Avant de danser avec les morts, il voulait voir les magnifiques yeux verts de sa compagne, pour la dernière fois peut-être. L'inquisitrice posa un instant les doigts sur le bras de son mari.
« Si tu sens quelque chose d'important, » dit Richard à Nietzsche, « fais-le-moi savoir. »
Sortant de la forêt, il s'engagea sur le chemin qui serpentait entre les champs cultivés. Nietzsche et Callan le suivirent, assez loin pour être hors de portée de son épée. Derrière les mordecites, les soldats formèrent l'avant-garde au cas où le danger viendrait par derrière. Richard n'aurait su dire exactement ce que Nietzsche pouvait capter avec son don, mais si le sien avait fonctionné, il aurait sûrement vu l'aura du pouvoir autour de la magicienne. Et même en étant aveugle, il sentait qu'elle était tendue comme un arc et prête à frapper avec toute sa puissance. Kalan aussi était prête à faire face au danger. Quant aux morts de Sith, en permanence sur leur garde, elles se posaient des questions quand il ne se passait rien, pas lorsque ça chauffait. Pour l'instant, il n'y avait rien à signaler. Pas d'animaux, pas d'humains et pas de menaces. Sur la paroi rocheuse, Richard distinguait parfaitement une grande ouverture sombre, l'entrée de Stroiza, le foyer de Samantha. Mais il n'y avait personne en vue. Avant de quitter Stroiza, le sourcier avait conseillé aux habitants de poster des sentinelles en permanence, afin que les demi-humains et les morts animés ne puissent plus les attaquer par surprise. Vivant de culture et d'élevage, les villageois n'avaient rien de féroce guerrier, mais de leur position élevée, il n'était pas difficile de repousser des attaquants contraints à une pénible ascension, en leur jetant des pierres par exemple. Ces gardes auraient dû être visibles, surveillant à la fois la forêt et les enclos des animaux au pied du village. Richard remarqua dans les champs des fruits et des légumes prêts à être récoltés, mais personne n'y avait touché, les pommes, les poires et les prunes commençant même à pourrir. Depuis qu'il était sorti de la forêt, le sourcier avait l'impression d'être exposé et vulnérable. Objectivement, ses compagnons et lui auraient été autant en danger entre les arbres, mais depuis toujours, il se sentait protégé au milieu des bois, même si ceci ne ressemblait pas à sa chère forêt de Heartland. Au cœur des bois, il savait comment survivre et affronter un ennemi, ou fuir et le semer. Des insectes bourdonnaient dans l'herbe et des papillons oranges butinaient les petites fleurs bleues qui poussaient entre les ceps de vigne. Bien entendu, les fruits trop mûrs, certains déjà tombés sur le sol, attiraient des colonnes d'abeilles. À part ça, il n'y avait rien de vivant en vue. Dans l'air chargé de la puanteur de la mort, pas une branche, une feuille ou un brin d'herbe ne bougeait. Pourtant, on entendait un bourdonnement sourd. Mais Richard ne put identifier ce bruit pourtant vaguement familier. Lorsqu'il avait séjourné à Stroiza, il y avait des animaux dans les étables et les enclos. Où était-il donc passé? Une fois les champs traversés, le sourcier eut la réponse à sa question. Les cochons étaient morts dans leur bauge. Deux vaches à lait au ventre gonflé gisaient dans une flaque de boue, et des moutons ensanglantés étaient empilés à l'ombre d'une bergerie. Partout, des volailles mortes finissaient de pourrir sur le sol, leurs plumes blanches éparpillées faisant penser à un tapis de neige. « Qu'a-t-il pu se passer ?» demanda Kalan en passant près de la bauge des cochons. Elle se couvrit le nez d'une main. Agressé par l'odeur, tous ses compagnons l'imitèrent. Pour atteindre la falaise, il restait à traverser un champ de rochers. Le résultat de siècles et de siècles d'éboulis qui avait fini par former une ligne de défense naturelle, car il était rare de pouvoir y avancer à deux ou trois de front. Au-delà de cet obstacle, Richard s'arrêta net, car il aperçut enfin les villageois. Le bourdonnement qui l'avait intrigué, c'était celui de milliers de mouches. Les cadavres étaient entassés au pied de la colline, là où ils avaient atterri après une chute vertigineuse. Des corps désarticulés et déjà rongés par les vers qu'on voyait grouiller dans leurs plaies béantes. Même en se pinçant le nez, l'odeur était insupportable. Tandis qu'il avançait, un bras plié sur le visage pour se protéger un peu, Richard reconnut quelques villageois. Des gens qui les avaient sauvés, Kalan et lui, quand ils étaient entre les griffes de demi-humains affamés. Oui, parmi ces gens, beaucoup avaient aidé et protégé le sourcier et la mère inquisitrice. Richard avait même combattu à leur côté quand des cadavres ranimés avaient tenté d'envahir le village. Il reconnut Esther, la femme qui s'était occupée plus spécialement de Kalan. Elle gisait sur le sol, ses yeux fixant le ciel sans le voir. Avec son épée, Richard chassa les mouches qui volaient autour de sa tête.
« Esprit du bien !» murmura Kalan. « Protégez ces âmes si valeureuses !»
Aussitôt après avoir prononcé ces mots, elle se pinça de nouveau le nez et se couvrit la bouche. Avec son arme, Richard fit signe à ses hommes de circuler entre les villageois en quête d'éventuels survivants.
Logiquement, il ne pouvait pas y en avoir, mais il fallait vérifier quand même. Si la plupart des corps semblaient être tombés de l'entrée du village, ce n'était peut-être pas le cas de tous.
La voix de Pfister arracha Richard à sa sombre méditation.
« Tous morts, Seigneur Hall. Une horrible façon de quitter ce monde. »«
Il y en a de pire, »
lâcha Cassia.
« Au moins ces gens sont morts vite et sans souffrir. »
La mort de Sith avait raison, dut concéder Richard. Mais ça n'avait rien de consolant devant un tel carnage. Ce n'était pas le premier qu'il voyait, bien au contraire, mais on ne s'y habituait jamais.
Des traces de blessures consécutives à un combat ?
Demanda Richard à l'officier qui revenait vers lui en enjambant les dépouilles. Redevenu un militaire lucide et détaché, Pfister secoua la tête.
« Il n'y a pas eu de combat, je crois. Si vous voulez mon avis, seigneur, je dirais qu'ils sont tous tombés dans le vide. Mais il y a quelque chose d'étrange. »«
Quoi donc ?»
Le lieutenant tourna la tête vers les cadavres entassés les uns sur les autres.
« On trouve des chats morts parmi les humains. »«
Des chats ?»
répéta Nietzsche, troublé.
« Une bonne dizaine, oui. »«
Il y avait beaucoup de félins dans les grottes, » dit Callan. Ils ont dû tomber avec les habitants, ou se jeter dans le vide comme eux.
Certains chats semblent avoir la fourrure roussie,
précisa Pfister.
C'est bizarre.
La décomposition, avança Cassia. Il y a un moment que ces cadavres sont là.
Nietzsche leva les yeux vers l'entrée du village.
Mais qu'est-ce qui a poussé tous ces gens à sauter de là-haut?
Une excellente question, dit Richard.
Si on allait voir.